Exactement, les 10 commandements. Donc, on va prendre en parallèle la page 447 pour les 10 commandements de la paracha Vayetranan. Et on va prendre également la page 175. La page 175. Les 10 commandements dans la paracha de Yitro. Je vais refaire avec vous un commentaire du Kli Yakar. Un commentaire du Kli Yakar qui va s'arrêter sur les différences qu'on retrouve. Qui va s'arrêter sur les différences qu'on retrouve entre les deux passages, le passage de Yitro et le passage de Vayetranan. Il y a plusieurs différences.
Je prends bien Yitro.
175. En bas de la page. Alors maintenant, la force du Kli Yakar, c'est qu'il va poser plusieurs questions. Au lieu de répondre à chaque question séparément, il va trouver une réponse
commune.
Une réponse qu'on appelle un yesod, une base, qui va répondre à toutes les questions. Donc on va d'abord passer aux questions. Donc ça, on l'a déjà étudié à Shavuot, mais moi, je le refais, parce que plusieurs qui avaient demandé si on pouvait faire ce cours, et on l'enregistrait, parce qu'ils voulaient le répéter, ils voulaient réviser. Bon, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils vont réviser. Alors, donc on prend, on va commencer on va commencer à page 175, parce que c'est là que les commandements ont été dit. Donc, Anochi Hashem Elokecha, Asher Osetticha Me'eretz Mitzrayim. Bon, alors, vous savez, on va passer directement. On va passer directement à... Voilà, ici. On va passer directement au huitième commandement. Enfin, c'est pas le huitième, effectivement. Pas sous Crète. C'est pas sous Crète, on passe page 76.
Oui.
Zachor, donc, il y a plusieurs différences, mais je vais m'arrêter sur les grandes différences. Zachor et Yam HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat, le Kadesho pour le sanctifier. Donc là, on nous demande de nous souvenir du jour du Shabbat. Prenez la page 440. Donc là, on passe à la page 448. Et vous prenez le pasouk Yudbet. On a le même verset. Mais là, c'est pas écrit Zachor. C'est écrit Shamor, quatrième ligne. Shamor et Yom HaShabbat et Kadesho. Donc, garde le jour du Shabbat pour le sanctifier. Et le verset rajoute encore autre chose. Ka'asher tivecha Hashem Elokecha, ainsi que Dieu t'a ordonné. Cette mention-là, on ne la retrouve pas dans le premier commandement. C'est pas écrit ainsi que Dieu t'a ordonné. Donc déjà, on a deux différences. Hein, on ne va pas faire le jeu de cette erreur, mais on a deux différences. Dans le premier commandement, c'est écrit souviens-toi du jour du Shabbat. Dans le deuxième commandement, c'est écrit garde le jour du Shabbat. C'est quoi la différence entre souvenir et garder? Et surtout que là, il rajoute ainsi que Dieu t'a ordonné qu'Asher Tivira Hashem Elokecha.
Moi, j'ai déjà une.
D'accord? Alors, ça, c'est une première question. Dans la deuxième, une autre question encore. Voilà. Alors, on va passer à la mitzvah de Kivu d'Avaim. Donc, on prenait la page 176, toujours. Donc, Kabed et Pasuk Yudbet. Je ne vais pas vous les montrer dans l'ordre, parce qu'en fait, c'est dans l'ordre des questions. Kabed et Avira Vatimira. Vous avez Kabed et Avira Vatimira. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Les ma'ani arichu niamecha, afin que tes jours s'allongent, c'est-à-dire que tu vives longtemps, ala adama asher Hashem Elokecha noten lar, sur la terre que Dieu te donne. Ça c'est dans la paracha Yitro. On passe à la paracha Vayetranan. Dans la paracha Vayetranan, kabel et avicha vatimecha, pasuk tetzain. Alors, regardez bien la différence. Kabel et avicha vatimecha, honore ton père et ta mère. Encore une fois, Ka'asher tivecha Hashem Elokecha, ainsi que Dieu t'en a ordonné. Ça, on l'a pas dit, cette mention tout à l'heure. Dans la paracha Yitro, il n'y a pas écrit ainsi que Dieu t'en a ordonné. Lema'an yarchu niamecha, afin que tes jours s'allongent. Ça, jusqu'ici, c'est la même chose. Mais on rajoute encore, Ulman itavlar, et afin que ce sera bien pour toi. D'abord, ça veut dire quoi que ce sera bien pour moi? Et c'est pas écrit dans la paracha Yitro. Ulman itavlar. Pareil, Ala adama, asher Hashem Elokecha noten lar, sur la terre que Hashem te donne. Ça, c'est encore une fois une deuxième différence. Donc on voit ici encore une autre différence.
C'est pas un peu normal? C'est Moshe qui parle.
Ah attends, oui, mais Moshe, il doit répéter ce qu'on lui a dit. Il peut faire une nouvelle chose, il y a un problème. Encore une autre question. La raison pour laquelle on fait Shabbat. Donc on reprend la paracha Yitro. Prenez le pasuk Yud Aleph. Enfin, venez, on va reprendre directement depuis pasuk Tet. Shejet Amutavot va citer comme Elartecha. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton... Tu feras tout ton travail, tout ce que tu as à faire. Veyom Hashevi, Shabbat, l'Hashem Elokecha, le septième jour sera un repos qui est dédié à Hashem. Lota Sekol Melacha, tu ne feras aucun travail. Ata, toi, ou Vincha, ton fils, ou Vitecha, ta fille. Avdecha, ton esclave, va matecha, ta servante, ou vehemtecha, est ton animal, vegercha, et donc celui qui est, alors c'est pas vraiment le converti, c'est l'étranger, asher bicharecha, qui habite chez toi. Ça veut dire que l'étranger qui habite en Israël doit suivre, doit lui aussi se reposer Shabbat. Mais c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter, on va s'arrêter sur le passage du Yud Aleph. Écoutez bien la raison pour laquelle on fait Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat? Qui shechetemim asa Hashem, car Dieu a fait en six jours, et Hashamaim v'et Haares, le ciel et la terre, et Hayam, la mer, v'et Kol Hasharbam, et tout ce qu'ils contiennent, Vayanar, Vayam Hashevi, et il s'est reposé le septième jour. Alken, c'est pour ça, Berach Hashem Atiyam Hashabbat, Dieu a béni le jour du Shabbat, Vayekadeshéou, il l'a sanctifié. Donc pourquoi on fait Shabbat? Parce que Dieu a travaillé six jours et qu'il s'est reposé le septième. On passe à la paracha Vaetranan. D'accord? Donc là, on passe directement au pasouk Tetva, puisque les pasouk d'avant c'est la même chose. Donc pareil, il dit six jours tu travailleras, septième jour tu te reposeras. Toi, ton fils, ta servante, ton esclave, etc. Et pasouk Tetva, regardez. Vezacharta, alors la raison pour le Shabbat est carrément autre. Vezacharta, ki evezaita be'eretz Mitzrayim, tu te souviendras que tu étais esclave en terre d'Égypte. Vayotiacha Hashem Elokecha, et que Dieu t'a fait sortir Misham de là-bas, donc de l'Égypte. Beyat Chazaka, avec une main forte, ou Bizroa Netuya, avec un bras levé. Alken, Tzivcha Hashem Elokecha, la 7e Shabbat, c'est pour ça que tu t'es ordonné de faire le Shabbat. Carrément une autre raison.
Magnifique.
Allez, c'est carrément autre chose, là. D'où il est sorti sa Moshe. Alors là, je rentre même pas dans les nuances, hein, parce qu'après, il y a des nuances de lettres, etc. Mais là, je parle, c'est basique, ça. Il y a un problème.
Ouais.
D'accord? Il y a un vrai problème.
Tu t'es trompé.
Non mais bon, tu me rajoutes un mot en plus, etc. Et tu expliques, je veux bien, mais là c'est carrément la raison qui a changé. Ah, il y a un problème.
Il a fait comme ça. D'accord. Il a dit, on peut changer.
Alors, dans Shabbat, alors encore une autre question. D'accord? Toujours dans Shabbat. Est-ce que vous avez remarqué que quand on est dans le pasouk Yud, dans la paracha Yitro, on a dit qui doit se reposer? Toi, ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante et ton animal. Dans la paracha va être Anan, ça je ne l'ai pas lu le verset. Dans la paracha va être Anan, on a ici, dans le pasouk, si vous voulez suivre, c'est dans le pasouk Yud Dalet. Donc, via Mashivi, Shabbat, Hashem Elokecha, Lota, c'est comme Elacha, tu ne pourras faire aucun travail. Ata, toi, Uvincha, ton fils, Uvitra, ta fille. Veavdecha, Vamatecha, ton esclave, ta servante, jusqu'ici tout va bien. Veshorcha, Vachamorecha. Et ton bœuf et ton âne.
Et les autres.
Vechol Bemtecha et tous tes animaux. Quelle est la différence?
Ah, il a spécifié.
Il a spécifié là. Pourquoi tu as spécifié? Ça a écrit, là-bas il a écrit tous tes animaux. D'accord? Il y a des choses. Ça c'est vraiment des mots en plus. Des choses que Moshe Rabbeinu a priori a rajouté.
Oui, mais parce qu'il parle à une autre génération.
Attendez, hein. c'est pas fini. Dans le Kabel et Avicha Vatimecha, quand on a dit honorer ton père et ta mère, dans les premiers commandements, c'était pas ce qui est bête, qu'est-ce qu'on a dit? Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'on a dit? Pas ce qui est bête. Afin que tes jours se prolongent. Alors que dans la paracha va être Hanan, on a dit honore ton père et ta mère, ainsi que Dieu t'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que
ce soit bon pour
toi. Et que ce soit bon pour toi. Donc encore une fois, ça on l'a déjà dit, encore une fois, une autre différence.
Oui, parce que c'était des vilains parents.
Attendez.
Dans la deuxième.
On va passer à un autre commandement encore.
Moi qu'il fallait rajouter.
Ouais.
Prenez la dernière ligne de la page 76. Parasha Yitro. Lotachmod bedrecha. Donc tu n'as pas le droit de convoiter la maison de ton voisin. Lotachmod eshedrecha. Tu n'as pas le droit de convoiter la femme de ton voisin. Veavdo vaamato. Ainsi que son esclave et ses servantes, etc. On va passer à la parasha Vaetranan. Parasha Vaetranan. Pasuk Yutret. Vous savez?
Oui.
Velotachmod eshedrecha. Alors, regardez bien. Velo Tahmot Echedrecha, d'abord l'ordre est différent. Tu n'as pas le droit de convoiter la femme de ton voisin, mais ça c'est la même chose. Après, qu'est-ce qu'il dit? Velo Tit Ave, tu n'as pas le droit d'envier, c'est plus convoiter, c'est envier. C'est encore plus dur à envier.
Ouais.
D'accord? Tu n'as pas le droit d'envier, ça vient du mot Ta'ava. Vedrecha, la maison de ton ami, alors Sadeu, on rajoute ici son champ. Veavdo, Vaamato, etc. Donc son esclave, sa servante. Donc vous voyez la différence. C'est quand on parle de la maison. Dans les premiers commandements, on a dit que l'interdiction est seulement de convoiter. Alors, c'est quoi la différence entre convoiter et envier? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre convoiter et envier en français? Alors, moi, je vais vous expliquer en hébreu, je ne sais pas si ça vient en français, hein, mais peut-être j'ai pas bien traduit. Convoiter, c'est lorsqu'on a envie de quelque chose et qu'on s'apprête à le prendre. Et bon, je suis en train de déjà faire un plan, comment je vais le prendre? Envier, c'est quand j'ai envie. Bon, j'ai envie. J'ai envie, mais ça ne veut pas dire que je vais le prendre. J'ai
un
envie.
Sentiment.
Un sentiment.
Tandis que l'autre, il y a la décision.
Mais convoiter, c'est jalouser de manière pathologique.
Voilà, alors ça veut dire que bon, si je peux le prendre, je le prends.
Alors que envier, c'est, bon. c'est
on a tous des envies.
Ouais, c'est normal.
L'envie, c'est un désir.
Ouais.
Et donc vous voyez qu'il y a une différence de termes.
J'ai envie de connaître la
convoiter, c'est une volonté.
Oui.
Je le prendrai.
Il y a une différence de termes ici. Dans les deuxièmes commandements, on a employé le terme envie. C'est-à-dire que même l'envie est interdite. Alors que dans les premiers commandements, on a dit non. C'est convoiter. C'est la convoitise qui est interdite. Bon, c'est encore plusieurs différences. Ok. Ah, venez. Alors attendez. On va venir encore une petite différence encore juste pour rajouter. Bon, il en amène 10, hein, mais bon, je vais pas tous les amener. Ici, dans les premiers commandements, page 176, vous reprenez. On va s'arrêter avec ça, après on va expliquer. Dans les premiers commandements, c'est écrit Lotirtsar, Lotinaf, Lotignov. Donc tu ne tueras pas. D'accord. Tu n'auras pas le droit de commettre l'adultère et tu ne voleras pas. Ça, c'est les premiers commandements. Dans les deuxièmes commandements, c'est écrit Lotirtar, tu ne tueras pas, Velotinap, et tu ne commettras pas d'adultère, Velotignov, et tu ne voleras pas. Qu'est-ce qu'on a rajouté ici?
Le et.
On dirait que les trois sont liés. D'accord? Donc le Tlekar, il dit la chose suivante, il dit, j'ai lu les autres commentaires de la Torah, et j'ai vu que chacun a donné des raisons, différentes raisons pour répondre à toutes ces questions-là. Il dit, moi, au lieu de répondre à chaque question séparément, je vais donner une réponse qui va répondre à toutes ces questions. Ça, c'est la classe. Une réponse qui va répondre à toutes ces questions.
Moi, je peux donner mon sentiment.
Oui.
Bah, les premiers 10 commandements, c'est l'universel.
Ah, on va voir, attendez.
Et le deuxième, c'est particulièrement aux juifs.
On va voir. C'est bien. On va voir. Donc, Léakar, il dit la chose suivante. Il dit, c'est écrit dans El Kutchimoni qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu donner la Torah, avant de donner la Torah au Bnei Israël, il l'a d'abord proposé aux nations. D'accord? Et on sait très bien, on nous raconte, bon, c'est assez imagé dans le Midrash, on nous dit, il a proposé aux Arabes, qu'est-ce qu'il a dit aux Arabes? Les Arabes, on leur a dit, il faut pas voler, ils ont dit, ah non, nous on doit voler. Il a proposé aux Moabites, les Moabites nous disent, ah non, nous, l'adultère, c'est sacré chez nous. D'accord? Etc, etc.
Bon.
En tout cas, de là, on comprend quoi, le Kliakar, il dit, donc on va rejoindre ce qu'il dit. Il faut que ça réponde à toutes les questions, attention. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'il dit le Kliakar? Le Kliakar, il dit que, quand on lit ce Midrash-là, on comprend que Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah. Il n'a pas seulement proposé la Torah à Israël, il a proposé la Torah également aux nations. Alors il dit, avec cette base-là, on va essayer d'expliquer la différence entre les premiers et les derniers commandements. Les premiers commandements, les commandements de la Parasha Yitro, ont été dits de la manière telle qu'Akadosh Baruch Hu les a présentés aux nations. Il les a présentés aussi à Israël, mais il les a présentés aussi aux nations. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un langage universel. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas dire. Et des choses que Dieu va dire, qu'il va rajouter. On va expliquer les détails, on va répondre à toutes les questions. Mais une fois qu'Akadosh Baruch Hu après a vu que les autres ont refusé, et que les seuls qui ont accepté c'est Israël, alors il a dit, bon, alors si c'est vous, alors dans ce cas-là,
on serre les vis.
Voilà, dans ce cas-là, on serre les vis, dans ce cas-là, c'est ce qu'on va dire. Alors il va expliquer, écoutez bien comment il va expliquer. Il dit la chose suivante. Il dit, par exemple, d'accord? Alors, il dit, donc on va répondre à toutes les questions. Oui. Alors, dans les premiers commandements, on avait dit Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat. Alors que dans les derniers commandements, on a dit garde le jour du Shabbat. D'accord? Donc, dans le premier, il a dit souviens-toi. Dans le deuxième, il a dit garde. C'est quoi la différence entre souvenir et garder? Allez, en français.
Là, on est dans... Garder, on s'est déjà souvenu.
Souvenir, c'est s'en rappeler. Garder, c'est... Ben, attention.
On s'est déjà souvenu.
Alors, l'Agmara, Sanhedrin explique la manière suivante.
Souvenir, on est dans la pensée. Garder, on est dans l'action.
Alors, l'Agmara, Sanhedrin explique la chose suivante. C'est-à-dire que souvenir, c'est plus un passif. C'est-à-dire que bon, je peux continuer à travailler, mais que bon, on va dire que je vais travailler un peu moins en guise de souvenir. On marque le jour, on se souvient. La mémoire, un devoir de mémoire. Alors quand tu me demandes de garder, là c'est carrément autre chose, c'est-à-dire qu'il faut célébrer le jour. Alors explique le Kliakar, il dit c'est très simple. Il dit, lorsque Kadosh Baruch Hu s'adresse aux nations, on sait très bien que Dieu a déjà donné l'ordre au Bnei Noach, dans la paracha Bereshit, il leur a dit, Yom Valala Louish Botu, que jour et nuit, 7 jours sur 7, ils doivent continuer à travailler. Donc il ne peut pas leur dire reposez-vous un jour, parce qu'ils doivent travailler, il faut bien que le monde y tourne. Donc c'est pour ça que Dieu ne peut pas leur dire... Ne peut pas leur dire garder le jour du Shabbat. Parce que garder, ça veut dire que toute l'humanité s'arrête de travailler. C'est pas bon, ça, on peut pas. Donc qu'est-ce qu'il leur dit? Souvenez-vous, souvenir. Voilà, c'est comme un dimanche. Il y a des gens qui travaillent le dimanche. Mais bon, la Avdil. Mais on se souvient que c'est un jour dans lequel on travaille moins que d'habitude. Ça, c'est... D'accord ? Ça s'appelle Zahor. Bon, on se souvient, il y a un devoir de mémoire. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu a proposé, pardon, et que les autres ont refusé, et que là il a donné au Bnei Israël, il a dit, ah, puisque je donne à vous, vous je peux vous dédier, je peux vous dire que le Shabbat, c'est pas seulement que vous vous souvenez du Shabbat, vous devez le garder. Ça veut dire quoi garder le Shabbat? Ça veut dire ne pas travailler, ne pas travailler du tout.
Ça fait avoir sur ce coup-là.
D'accord. Attends, c'est pas fini.
Il va faire l'envers.
Continue, rappelez-vous, dans les premiers commandements. C'est quoi la raison pour laquelle on fait Shabbat dans les premiers commandements?
Pour se souvenir que...
Pour se souvenir que Dieu a travaillé 6 jours et que le 7e y se reposait. On a dit dans les premiers commandements.
D'accord.
Encore une fois, c'est un message universel, ça. Rien à voir avec la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte, ça concerne que nous.
Que nous.
Donc, puisque c'est un message universel, Dieu donne une raison universelle. Le monde a été créé pour tout le monde. Donc, on se dit, voilà. Le monde a été créé en 6 jours. Et le 7e... Je me suis reposé, donc vous aussi reposez-vous, marquez le jour.
J'étais fatigué.
D'accord ? Marquez le jour, il faut bien, vous devez bien vous reposer un jour, choisissez le jour où moi je me suis reposé. Mais dans les derniers commandements que Dieu s'adresse au peuple juif, dans ce cas-là, quelle raison il donne ? Il passe carrément sur une autre raison. Il passe sur la raison de la sortie d'Égypte. Que la vraie raison pour laquelle, d'ailleurs on le dit dans le Kiddush vendredi soir, la vraie raison pour laquelle nous on fait Shabbat, dans la Tfila aussi, c'est Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte.
Quel rapport ?
D'accord ? Quel rapport ? Ça veut dire que le jour de Shabbat, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Et qu'encore plus que la raison du Shabbat, c'est parce que Dieu s'est reposé un jour. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de nous reposer le Shabbat ? C'est pour qu'on se rappelle qu'on est sorti d'Égypte et qu'on est devenu des hommes libres. Ça explique le Maharal de Prague.
Ah oui, d'accord.
Oui, qu'on est devenu des hommes libres et qu'on doit célébrer cette liberté. C'est en vérité, chaque Shabbat, on a un mini Pessah. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est carrément autre. Quand un non-juif se reposerait le Shabbat, c'est pourquoi ? C'est parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Nous, on a carrément une nouvelle raison. C'est quoi la raison ? C'est parce que Akadosh, bon, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est un souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, encore une fois, avec ça, on explique la différence entre le premier et le dernier commandement. Les premiers commandements, c'est un message universel. Les derniers commandements, c'est un message dédié au Ham Israël. Continue encore le Kliyakar. Il dit, pour ajouter encore autre chose, sur Zahor et Shamor. D'accord ? Zahor et Shamor, rappelez-vous, dans les premiers commandements on a dit souviens-toi du jour du Shabbat, dans les derniers commandements on a dit Shamor et tiens ma Shabbat. Alors on a expliqué la raison dans le Pshat, on a dit que dans les premiers commandements pourquoi on dit souviens-toi, parce que c'est, on a dit chez les non-juifs, enfin le message universel c'est seulement un devoir de mémoire, alors que pour les Bnei Israël on a un devoir de garder le Shabbat. Alors il rajoute encore autre chose, le Kli Yakar rajoute encore autre chose, il dit, il y a une manière de faire des guimatrias en prenant ce qu'on appelle le Ne'elam. C'est quoi le Ne'elam ? C'est par exemple, vous allez prendre une lettre. On va pas, par exemple, Zahor, ça s'écrit comment la racine de Zahor ?
Zayin,
Chaf, Resh. Alors c'est quoi le Ne'elam ? Ne'elam, ça veut dire qu'on va écrire chaque lettre séparément.
Donc, Néné, on appelle ça.
Donc Zayin, comment on écrit Zayin ?
Avec un Zayin,
d'accord ? Zayin, Yud, Nun. Chaf, comment on l'écrit ? Chaf, P.
Premier niveau.
Resh, comment on écrit ? Resh. Yud, Shin. D'accord, donc on va peiner quand ça vous dit
Pléné.
Pléné. D'accord.
Oui, mais un niveau, parce qu'il y a en
oui, 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 bien sûr.
Encore.
Bah, bien sûr.
Mais ça finit jamais.
Alors, maintenant écoutez bien. On va prendre les dernières lettres. Alors ça c'est un peu compliqué, bon, moi j'ai pas de tableau. On va prendre les dernières lettres des mots plénés. Donc je prends Zahar. Zahor, se souvenir. Zahar, Zayin, Chav, Resh. Zahor.
Zayin, Resh.
Resh, Yud, Shin.
Non, je recommence. Zahor. Zayin, c'est quoi la dernière lettre de Zayin ?
Nun.
D'accord ? Chaf.
P.
D'accord ? Chaf, la dernière lettre de Chaf, c'est quoi ? C'est P. D'accord ? Enfin, F. Dernière lettre de Resh, Zahor, c'est quoi ? Resh.
Shin.
Shin. Nun, P, Shin. Ça fait quoi ?
Nefesh.
Nefesh. Attendez, c'est pas fini.
Attendez,
il a pris les dernières lettres.
Attendez, c'est pas fini.
Et Shamor.
Attendez, on va prendre Shamor maintenant. Shamor. On va écrire Shin. Dernière lettre de Shin, c'est quoi ?
Nun.
Oui. Ensuite, Mem. Dernière lettre de Mem. Mem. C'est toujours un Mem. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a Ne. Sha. Ah, attendez, bientôt on arrive. Dernière lettre. Dernière lettre de, c'est quoi ? T'as donc Shamor, le Resh. Resh, c'est quoi ? Resh, Yud, Shin. Le Resh s'écrit comment ? Resh, Yud, Shin. Donc on a ici Nun, Shin, Mem. Ça fait quoi Nun, Shin, Mem ?
Nun, Neshama.
Neshama.
Nefesh et Neshama.
Différence entre Nefesh et Neshama. C'est quoi la différence entre Nefesh et Neshama? C'est deux niveaux différents qu'il y a dans l'âme. Nefesh, c'est l'âme universelle que tout le monde a, qui peut vivre tout le monde. Neshama, c'est l'âme supplémentaire qu'on reçoit le Shabbat.
Comment on magnifique.
D'accord.
Pourquoi, il dit pourquoi la dernière lettre ou...
Ça s'appelle le Néalam. C'est une des manières de calculer les gematria. Bon, on va expliquer les différences encore. Donnez-moi 5 minutes.
J'y vais.
D'accord.
Bon, d'accord, mais attends,
Nefesh et Neshama.
Bon, pour l'instant, on n'est pas... ça peut être une belle coïncidence.
Oui, non, bon, pour l'instant, c'est déjà pas mal.
Non, il n'y a que deux.
Sur 10 versets, on a trouvé 5 coïncidences. Je sais pas combien il y a de probabilités, mais il y en a beaucoup, là, quand même. Hein. Alors, on continue. Ouais. Rappelez-vous pour le commandement d'honorer son père et sa mère. Dans les premiers commandements, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tu honores ton père et ta mère, c'est tout. Dans les derniers commandements, qu'est-ce qu'on a dit? Honore ton père et ta mère, ainsi que Dieu t'a ordonné.
Bon, on peut dire qu'il renvoie au premier commandement de l'époque
des Yitro. Ah non, pas du tout, il est en train de répéter. Vous vous rappelez?
Oui, c'est ça, ben il renvoie.
Il dit ainsi que Dieu t'a
exactement.
Ordonné.
Ah, non, alors qu'il est en train de le faire.
Les 10 commandements, c'est Dieu qui les ordonne.
Exactement. Alors, il y a eu deux endroits où on a dit ainsi que Dieu t'a ordonné. Il y avait sur le Shabbat,
ouais.
Et sur honorer son père et sa mère. Ouais. Sur ces deux mitzvot-là, il a dit ainsi que Dieu t'a ordonné. Pourquoi? C'est une répétition. Pourquoi tu dis ainsi que Dieu t'a ordonné? La réponse est très simple. Mais ça, il a dit que dans les derniers commandements, pas dans les premiers. La réponse est très simple. Parce que Akadosh Baruch Hu, au Bnei Israël, il aura déjà donné la mitzvah d'honorer leur père et leur mère et de faire le Shabbat. Ça fait déjà plusieurs semaines en arrière, lorsqu'on était à l'étape de Mara. Donc c'est pour ça, lorsque Dieu s'adresse à toutes les nations, bien sûr, lorsque Dieu s'adresse aux nations, il ne peut pas leur dire ainsi que Dieu t'a ordonné, parce qu'il ne leur a pas encore dit. Donc il leur dit, honore ton père et ta mère, fais le Shabbat. Mais lorsqu'il s'adresse au Bnei Israël, et qu'eux, il leur a déjà donné ces mitzvot, ces deux mitzvot particulières d'honorer son père et sa mère, et de faire le Shabbat, il leur dit, à vous, je peux vous dire ainsi que je vous ai déjà ordonné. Ce qu'il leur a déjà dit.
Ça date de 39 ans, toi, 30, combien d'années avant, Mara?
Non. Moshe Rabbeinu, il répète les 10 commandements. Mais quand on a donné les 10 commandements au Bnei Israël, le jour de Aseret HaDibrot, que Dieu savait déjà à ce moment-là que les Bnei Israël étaient les seuls à accepter la Torah, nous dit le Kli Yakar, à ce moment-là, Dieu, comment il leur a dit? Il leur a dit ainsi que Dieu t'a ordonné, puisqu'on a déjà reçu ces mitzvot.
C'est quoi Mara?
Mara, c'était, on avait plusieurs états dans le désert. C'est un nom d'un endroit.
Ah, c'est un
d'accord état. Et quand on était à Mara, en guise de préparation au don de la Torah, Dieu nous a déjà donné plusieurs mitzvot, d'accord, dont les deux mitzvot clés qu'il nous a donné. Le Shabbat, honorer son père et sa mère. Donc on a ici le Shabbat, c'est entre l'homme et Dieu, et Kibbudavahem, c'est le social, c'est la base du social, honorer son père et sa mère. Donc c'est pour ça que Dieu dit ainsi que Dieu t'a ordonné, parce qu'il nous a déjà ordonné. Mais dans les premiers commandements qui étaient un message, rappelez-vous, universel, il peut pas dire ainsi qu'il t'a ordonné, puisqu'il leur a pas ordonné. Suivez ? Vous voyez comme avec une base, il répond à toutes ces questions. Alors, il a rajouté ? Oui, attendez, on va arriver. Encore autre chose. Dans les premiers commandements, on n'a pas dit honore ton père et ta mère afin que. Donc dans les premiers commandements, on a dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se rallongent. Dans les derniers commandements, qu'est-ce qu'on a dit? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se rallongent et que ce soit bien pour toi. Pourquoi pour les juifs on rajoute et que ce soit bien pour toi?
Ouais.
Il répond le Klekar, il dit c'est très simple. Il dit parce que il explique le Midrash, il dit que quand on dit que tu seras bon sur toi, de quoi on parle? On parle du Gan Eden. Donc les goyim n'ont pas de Gan Eden, ils ont un monde futur, Mashiach, mais ils n'ont pas de Gan Eden. Donc on peut pas leur dire les manis tavlach. Quand on sait un message universel, on peut pas leur dire afin que vous allez avoir le Gan Eden. Ils n'auront pas le Gan Eden, ne leur raconte pas quelque chose qu'ils n'auront pas. Mais quand on est dans les deuxièmes commandements, les commandements qui sont dédiés au Bnei Israël, là on peut leur ajouter les manis tavlach, afin que ce sera bien pour vous, de quoi on parle? Gan Eden.
Pourquoi dans les autres commandements, ils donnent pas la récompense? Il y a que dans celui-là qui donne la récompense.
Ah, bonne question. C'est pas seulement ça. C'est que on a les deux commandements dans lesquels on donne la raison, c'est le Shabbat et honorer son père et sa mère.
Non, la récompense, voilà.
D'accord.
Là,
oui.
Tes jours sera.
Mais ça veut dire
le Shabbat,
dans le Shabbat on donne la raison, alors que dans les autres on donne pas la raison.
La raison.
D'accord, c'est, on donne la raison.
Bah,
on explique quand tu dois le faire. Et dans le honorer son père et sa mère, on donne la récompense.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on s'est arrêté particulièrement sur ces deux commandements. Pourquoi? Encore une fois, a priori on s'est arrêté sur ces deux commandements parce que ces deux commandements sont la base, on va dire, sont la base des mitzvot entre l'homme et Dieu. Et les mitzvot sociales. Faire le Shabbat, ça veut dire chaque semaine, ça rate pas. Et honorer son père et sa mère, c'est la base du social. C'est que tu dois rendre ce qu'on t'a donné. D'accord? A priori, c'est pour ça qu'on a choisi ces deux mitzvot.
Ouais.
Alors, venez, encore une autre réponse. On avait dit, dans les premiers commandements, on a dit, tu devras te reposer, toi, ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante, et tous tes animaux. Ça, c'est les commandements universels.
Bof,
dans le commandement, deuxième commandement, qu'est-ce qu'on a dit? Tu devras te reposer, toi, ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante, ton bœuf, ton âne et tous tes animaux. Pourquoi on a rajouté ton bœuf et ton âne?
Il n'y a pas d'œuf et d'âne.
Pourquoi on a rajouté ça?
C'est une nouvelle acquisition.
Alors écoute bien, il dit c'est très simple. D'accord? Il dit c'est très simple.
Très simple.
Il dit que pourquoi on a écrit ici Shorcha Vachamorecha, Shorcha Vachamorecha. Il dit c'est très simple. Il dit parce que Kadosh Baruch Hu, du mot Shorcha Vachamorecha, on a appris de ça une dracha. Dans la Gemara Baba Kama, on a appris une dracha Shorcha Vachamorecha que. Alors je vous explique, on fait une Gzera Shava, ce qu'on appelle une Gzera Shava. Puisque. À propos du taureau, la Torah nous dit une mitzvah qu'on n'a pas le droit de lui boucher sa bouche, donc de le museler, lorsqu'il est en train de labourer.
Oui.
Ça veut dire qu'il faut le laisser manger. Ça, c'est à propos du taureau. À propos de l'âne, il y a une autre mitzvah dans laquelle c'est écrit « Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi, hein, ou même de ton ennemi, en train de crouler sous sa charge, ouais. tu devras l'aider. » Donc, une fois on a parlé d'un taureau, une fois on a parlé d'un âne. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai un taureau qui est en train de crouler sous sa charge? La Torah n'a pas parlé. Alors d'où on a pris. Attendez, écoutez, exactement. Oui, il y a un âne qui est en train de labourer.
Il l'a pris pour labourer.
D'accord. Alors écoutez bien. La Gemara dans le traité Baba Kama, elle fait ce qu'on appelle une Gzera Shava. Elle dit pourquoi la Torah a rajouté les mots Shorcha Vachamorecha dans les 10 commandements? C'est pour te dire que l'âne et le taureau sont sur le même piédestal. Ça veut dire que de la même manière, ça veut dire que tout ce qui s'applique sur l'âne s'applique sur le taureau. Donc, ce qui est appliqué sur l'âne s'applique sur le taureau. Donc les deux mitzvot c'est les mêmes. Pourquoi ça on l'a pas dit dans le premier commandement, explique le Piyakar, il dit c'est très simple. Parce que dans le premier commandement, Akadosh Baruch Hu donne un message universel. Dans le message universel, il n'y a que 10 commandements. Il n'y a pas encore ces nouveaux commandements. Ces commandements d'aider à décharger, etc. Donc il n'a pas besoin de leur rajouter un mot. Donc c'est pour ça qu'il leur dit pas. Mais nous, qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous, au Bnei Israël, qui sait qu'on a déjà, on va recevoir la mitzvah de aider à décharger et, comme on l'a expliqué, ne pas museler. C'est pour ça qu'il nous a rajouté un mot, et que de ce mot-là, on va faire une dracha par la suite pour dire que l'âne et le taureau doivent toujours être sur le même
piédestal.
Et enfin, à égalité. Oui, bon, piédestal. Je finis avec le dernier point. Attendez, je finis avec le dernier point.
Il est marqué dans les mains.
À propos de, dans les premiers commandements, on a interdit la convoitise.
Ouais.
Alors que dans les derniers commandements, donc dans les commandements universels, on a parlé de convoitise. Dans les commandements dédiés au Bnei Israël, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé de
envie.
D'envie. Ah, c'est quoi la différence entre l'envie et la convoitise? Alors, on explique comme ça.
Convoitise.
Il amène un commentaire du Ibn Ezra. D'accord. Il amène un commentaire du Ibn Ezra, donc qui veut dire ce qu'on a dit la chose suivante, ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'on est passible de la convoitise seulement si on a pris l'objet qu'on a convoité. C'est-à-dire que convoiter, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure.
Convoiter, c'est utiliser aussi.
Voilà. C'est quoi convoiter? Convoiter, c'est quand tu veux quelque chose, mais que tu le prends.
Tu l'utilises.
D'accord? Ça veut dire que tu as commencé au moins à consommer.
Il y a la pensée suivie de l'action.
D'accord? Par exemple, hein, bon, je vais donner un exemple un peu cru. Si par exemple quelqu'un il convoite une femme, il faut qu'il touche la femme. Au moins il la touche. C'est-à-dire qu'il a commencé. Mais s'il n'a pas touché, il n'a rien fait. D'accord? Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle pas convoiter. Bon, est-ce qu'en regardant, ça s'appelle consommer? C'est une autre question. Et ça veut dire que c'est... Ah, attends, c'est écrit, attention, c'est...
Ça vient du latin, d'accord. Qui veut dire prendre en voiture avec toi. Comme, d'accord. Ça veut dire...
Ça vient du latin, je savais pas.
Comme, ça veut dire avec, et voiture...
Voiture, c'est...
Avec... Prendre,
ça veut dire prendre avec moi.
Prendre avec toi.
Pour voyager, d'accord, j'ai compris.
Ah oui,
alors,
là, ça va plus loin.
Quel rapport? Alors, comment ça répond à la question?
L'accaparer.
Alors, attendez, comment ça répond à la question? C'est très simple. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, c'est une réponse très intéressante qu'il a le Kliyakar. Il dit, c'est très simple. Il dit, rappelez-vous dans les premiers commandements, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. D'accord? Et tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin. Dans les deuxièmes commandements, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin et tu n'envieras pas le champ de ton voisin. La maison de ton voisin. Pourquoi ces différences-là? Il dit, c'est très simple. Il dit parce que les Bnei Israël, ils sortent d'Égypte. En Égypte, ils se sont déjà habitués à se suffire de peu. Donc c'est relativement facile et accessible de leur demander, de leur dire que la maison de ton voisin, non seulement tu la convoites pas, mais tu la regardes même pas.
Tu la regardes même pas.
Parce qu'ils sont habitués à ça. Ils n'avaient rien en Égypte. Donc maintenant qu'on leur donne, tu peux leur dire, ni tu convoites, ni tu veux. Par contre, pour la femme, ils avaient des femmes en Égypte. Donc tu peux pas leur dire ni tu convoites, ni tu convoites, ni tu as envie. Il va dire attends.
Tu convoiteras.
D'accord? C'est pour ça qu'on dit bon. la mitzvah de base, d'accord.
La
mitzvah, non, attention. Non.
On peut regarder.
Non, on peut même plus.
Non, qu'est-ce qu'on dit dans le schéma, dans la troisième partie du schéma, on dit vous n'avez pas le droit de vous détourner après vos yeux. D'accord, ça veut dire que ça veut dire qu'un regard
mal placé.
Bon, ils appellent ça maté, je crois, hein, c'est ça. Ouais. Un regard
ça sourd. Un regard oui.
Ça sourd. Celui qui regarde pour voir qui est là, bon, c'est une chose. Celui qui regarde pour se rincer les yeux, hein, bon, ça sourd.
Ça sourd.
Donc encore une fois, on a répondu à la question pourquoi il y a eu cette différence entre les premiers et les derniers commandements. Dans les derniers commandements, lorsqu'on parle d'argent, on s'est déjà habitué à se suffire de peu, donc on peut se permettre de demander, au Bnei Israël non seulement de ne pas convoiter, mais en plus de ne pas même désirer. D'accord ?
Mais dis-moi, moi j'ai une question à lui poser au.
Alors, attendez. Maintenant on nous dit le. Oui, bon enfin. Nous dit le Kliyakar en passant, il nous dit que c'est. Il ramène ce que je finis avec ça. Les Rachamim ils disent que Hirurea Avera Kashim Avera. Que penser à une Avera avec une femme, on parle bien sûr, c'est plus grave que c'est quelque part c'est plus dur que faire une Avera. Pourquoi ?
Parce que lorsqu'une. Même la pensée.
Oui, je vous dire
et
pourquoi.
Le rêve, alors.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'une personne fait une Avera avec
penser,
une femme.
C'est plus dur que faire ?
Pourquoi c'est plus dur ? Non, d'un certain angle. Parce que mais lorsqu'une grave, personne fait une Avera.
Plus dur ou plus grave ?
Écoute bien, ils sont plus durs. Lorsqu'une personne fait une Avera, il va regretter. C'est sûr qu'il va regretter. Et lorsqu'une personne a une pensée déplacée, il ne regrette pas. Parce qu'il dit c'est rien, c'est une pensée.
Ça dépend à quel niveau il est.
D'accord. Oui.
On peut dire, ah, ça sourd, bon sang, pourquoi j'ai pensé à
mais c'est plus dur, le Yitzhara, il est plus dur sur ça, sur la pensée. Parce que dans la pensée, je dis, bon, t'as rien fait, t'as pensé, qu'est-ce qu'il y a, t'as rien fait.
Façon, c'est un terme, d'accord, personne ne sait.
Personne ne sait. Si t'as touché personne, t'as rien fait.
S'il a étudié le Tanya ou pas.
Personne n'est au courant.
Et donc, c'est pour ça.
S'il a étudié le Tanya, d'accord.
C'est pour ça qu'on te dit que tu n'as pas le droit de convoiter, et à plus forte raison, que tu n'as pas le droit de penser dans ton cœur. D'accord, c'est une pensée profonde, c'est interdit. Ça va dissiper aujourd'hui.
Alors, moi j'ai une question à poser au Kliyakar. Convoiter, on peut se l'interdire.
Oui.
Donc, il n'y a pas de problème. C'est pas à moi. Bon, j'aimerais bien l'avoir, mais c'est pas à moi, donc c'est pas à moi. Mais l'envie, c'est un élément qui est spontané.
Car tu peux revenir après et te dire,
ah, c'est pas bien. Mais en attendant, tu l'as fait. Tu as eu envie de.
Ouais. Alors j'ai compris la question. Le comment on appelle ça, j'ai compris. Le Ibn Ezra il répond à la question. Il donne un exemple. Il dit c'est comme un paysan qui habite dans un petit village. Et si on lui va lui poser la question, il va lui dire est-ce que tu as envie de la fille du roi? Ça lui est même pas venu à l'idée. Et quand on lui parle, ça peut même pas lui venir à l'idée. Même s'il la voit, parce que c'est très loin, ça veut dire on a envie seulement, il explique le Ibn Ezra, on a envie seulement de quelque chose qu'on pense dans le subconscient qui est accessible. Sinon t'as pas envie. Et c'est ça le travail. Le travail, c'est de se travailler pour se dire que c'est pas accessible, c'est pas à moi, j'ai une femme et c'est tout. C'est-à-dire que le travail n'est pas sur l'envie. Le travail est de s'expliquer que c'est pas accessible. C'est pas que tu peux, mais t'as pas le droit. On te présente un menu, on te dit mais vous avez le droit que celle-là. Non. Il y a un seul menu, il y a un seul plat, c'est tout ce qu'il y a. Les autres sont pas accessibles.
C'est très très dur.
C'est très très dur, bien sûr. Donc ça explique les contrats.